We invite you to join us on a musical journey through the countries of the Far East. Our journey begins in Tokyo, capital city of the land of the rising sun, Japan.
Ça, c'est un thème qui s'appelle Sakura, qui parle des cerisiers. On sait très bien qu'au Japon, les cerisiers, c'est vraiment très important. Donc, voilà, j'ai voulu commencer par ça. En plus, c'est un disque qui a été fait par une compagnie aérienne de Hong Kong, il me semble, qui est sorti fin années 50. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite introduction au début du disque. Et donc, voilà, ça me semblait bien pour une introduction.
Puisqu'on va passer 2 heures ensemble à écouter de la musique japonaise.
Oui, voilà, il fallait préciser pour nos chers auditeurs qui n'étaient pas au courant que ce soir, Eric Rack est au pays du soleil levant.
Voilà, tout à fait. Comment est-ce que tu as découvert la musique japonaise et d'où vient ta passion pour...
Bon, ça fait une bonne dizaine d'années que je m'y intéresse. J'ai commencé surtout par le rock, essayer de trouver du rock années 60 qui soit un peu japonisant, avec des instruments japonais, chanté en japonais, etc. Et au fur et à mesure des recherches, j'ai creusé plus ou moins dans un peu tout, ouais, toutes les époques, tous les styles du free jazz, musique contemporaine, musique d'animation, enfin bon, tout ce qui peut se faire un peu au Japon.
Il y a une difficulté quand on est collectionneur ou quand on s'intéresse à, sa musique, à cette musique, c'est au bout d'un moment la barrière de la langue.
Ouais, ça c'est clair.
Puisque de nombreux artistes japonais sont difficiles à trouver, puisque ouais. Tout est écrit en japonais.
Et voilà, donc il y a très peu d'artistes japonais qui sortent vraiment...
Des frontières.
Ouais, des frontières, donc c'est vraiment une recherche... qui est assez difficile, qui est à base de beaucoup d'internet et de Google Traduction de compagnie pour essayer de vraiment creuser des infos quand on parle pas japonais.
C'est comme ça que tu fais, toi?
Voilà, ouais, c'est un peu
ça. Il y a 10 ans, tu faisais comme ça?
Ouais, bah, j'ai commencé comme ça. Après, maintenant, je me mets doucement au langage, au kanji, etc., pour essayer d'apprivoiser les pochettes et essayer de deviner un peu qui sont les artistes derrière tout ça, parce que c'est vrai que c'est compliqué, et puis internet, ça peut pas tout résoudre, quoi.
Et est-ce que tu es déjà parti là-bas pour acheter des disques?
Ouais, j'y suis parti deux fois. Là, je reviens justement il y a quelques mois et j'étais là vraiment parti pour chercher du disque et surtout du disque traditionnel. Donc, c'est pas des choses qui sont vraiment exportées. C'est pas ce que les Japonais mettent en valeur forcément sur Internet, etc. Donc, même chez eux, c'est pas un truc qui est vraiment très, bon, très recherché. Donc, du coup, j'ai pu trouver plein de trucs assez facilement, quoi.
Très bien. On va continuer à discuter du Japon pendant 2 heures.
C'est vrai, juste pour ajouter, c'est vrai que quand j'étais là, quand tu étais revenu en direct de l'aéroport, il avait déballé ses valises devant nous et j'étais là, mais genre, putain, mais comment est-ce qu'il a fait pour trouver tout ça? J'étais tellement jaloux, quoi.
Ouais, mais faut savoir que les boutiques au Japon, c'est quand même énorme. Hein. Souvent, à Tokyo, c'est sur 7 étages, même si c'est de l'occasion, il y en a pour tous les goûts. Les prix sont abordables, on voit des choses vraiment qu'on voit nulle part ailleurs, et puis même des cultures de tous les pays, quoi. Donc, même pour des trucs français obscurs, on peut aller chercher au Japon.
Même pour les obscurités françaises,
ah ouais, carrément, on peut être sûr de trouver des disques de DDAA, il y en a un qui me manque. J'en cherchais, enfin, je l'ai vu en France une ou deux fois très cher. Au Japon, en 2 semaines, j'ai vu 3 fois des prix très abordables, quoi. Donc, bon, c'est vrai que c'est un exemple vraiment frappant de ce qu'on peut trouver là-bas, quoi. Et puis, c'est un peu ça pour tous les domaines, quoi. Donc,
Et il y a une difficulté au Japon, du coup, c'est que les rues n'ont pas de nom, je crois.
Ouais, pour se déplacer, c'est pas facile. Ouais,
c'est pas en fonction de l'ancienneté de l'arrivée dans la rue,
c'est
je crois.
Les numéros de blocs qui sont faits au fur et à mesure que les blocs sont faits dans la rue, ils portent les numéros. Donc, bon, c'est vrai que quand on arrive, on comprend rien. Après, il y a des plans qui sont vraiment très détaillés. Et bon, faut un peu comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que, bon, si tu restes 2 semaines là-bas. Tu t'habitues 10 jours, au bout de 10 jours, tu commences à être à l'aise, mais bon, voilà, il faut déjà partir. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile d'accès. Hein. J'ai passé 2 heures ou 3 heures à trouver une boutique de disques où finalement, que c'est pas avéré être vraiment hyper bien. Donc, bon, c'est vrai que ça prend du temps, quoi.
C'est le paradis du digger, quoi.
Un peu, ouais, carrément. Ouais. Ouais, je pense que tout le monde y trouve son compte. N'importe quoi, tu peux écouter, tu trouveras forcément des trucs bien.
Et une dernière question, c'est qu'il y a beaucoup de boutiques au Japon, en tout cas je sais pour les bars, qui sont pas visibles de la rue et qui sont souvent à l'étage.
Ouais,
c'est juste une plaque.
Un peu comme Bimbo.
Ouais, bah ouais.
Bimbo Tower était un petit peu sur ce modèle-là, mais je pense que c'était plus subi que recherché.
Oui, effectivement.
Mais c'est vrai que oui, il y a ce côté-là où les boutiques sont un peu cachées, il faut aller les trouver. Et puis bon, quand c'est annoncé en japonais, c'est pas facile, quoi. Après, à Osaka, j'ai trouvé sur place des mini-plans du quartier pour toutes les boutiques de disques du quartier.
Ah ouais, d'accord.
Ça, c'est classe, ça.
Ça, c'est sympa. Mais bon, après, c'est vrai que ça dépend aussi de ce que tu cherches. Ça, c'est vraiment un plus aussi axé pour les touristes. Après, il y a 50 boutiques où on va passer à côté, quoi. Donc,
c'est les plus connues qui sont indiquées.
Ouais, voilà. C'est celles qui ont le plus de moyens parce que les loyers au Japon, voilà, c'est difficile. Et même si le Japon, c'est le pays du disque, entre guillemets, c'est quand même difficile aussi d'avoir une boutique encore là-bas pour ça.
Ouais, de s'en sortir avec ça. On va écouter un nouveau disque, du coup.
Ouais. Alors, le deuxième morceau, c'est encore un morceau de vraiment aussi traditionnel d'une chanson de folk. Alors, j'ai pas le nom non plus de cet artiste-là, mais c'est très beau. C'est chanté par une femme, donc voilà. On va
écouter ça tout de suite sur Radio Campus Paris.
シュラシュシュシュ踊らにゃそんだよよ手のカラスの落馬で踊ろよ泡踊り一度回れば金毘羅船船あなたと二人でシュ C'est la chanson du chat. C'est toujours le chat qui fait tout ce qui n'est pas bien. Qui a cassé la tasse de porcelaine? Le chat. Qui a mis du désordre dans la maison? Le chat. Encore le chat? Toujours le chat.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris dans votre émission musicale préférée qui s'appelle Éther et Crac. Et nous
sommes... Quel annonceur!
Bah oui, écoute, je suis professionnel et nous sommes toujours en compagnie de Cheb Géro pour une sélection spéciale Japon. Et donc, qu'est-ce qu'on vient d'écouter, mon cher Cheb?
Alors là, c'était le premier morceau, comme j'avais dit, c'était un morceau de folk assez traditionnel, un thème vraiment récurrent qu'on entend un peu par tous les artistes quoi, qui l'ont chanté. Tout le monde l'a un peu chanté. Et celui d'après, c'était... Yoshiko, c'était une berceuse japonaise qui parle du chat.
Voilà. Du chat qui ronronne.
Voilà, les Japonais sont très friands des chats et de tout ce qui est mignon. Donc voilà, c'est une petite berceuse très sympa qui datait de la fin des années 50.
Et est-ce que tu connais les instruments qui sont utilisés sur les morceaux?
Alors là, on a entendu du koto. Donc le koto, c'est un grand instrument à 13 cordes qui fait à peu près 1,80 m de longueur. Qui est joué avec une sorte de grattoir en ivoire.
En forme de triangle, si je ne m'abuse.
Non, le triangle, c'est pour le shamisen. C'est pour
le
lutte. Mais c'est un grand instrument à cordes qui se joue à plat. Quoi.
D'accord.
Et là, en particulier, c'était du koto, ouais, sur le dernier morceau qu'on a entendu.
Qu'est-ce qu'on va y entendre ensuite?
Alors ensuite, ça va être... un chant des Ainu, qui est le peuple tout premier qui a foulé les terres du Japon, 1000 ans avant les peuples Wa qui venaient du de Corée et qui ont, à ce moment-là, vraiment, qui forment le peuple japonais actuel. Donc, c'est un peu une, enfin, c'est un peuple un peu en voie d'extinction parce que ils ont été un peu malmenés par l'histoire. Et du coup, il en reste très peu. Et puis, c'est vraiment un peuple avec des instruments particuliers, etc.
Et un chant traditionnel.
Voilà, chant traditionnel de ce coin-là. Donc, c'est vraiment au nord du Japon et à l'extrême est de la Russie. Donc, c'est vraiment sur cette. Cette région du monde, donc il reste encore quelques Ainu au Japon, mais bon, il en reste moins de 100 000 à peu près.
Il y a eu un article, il y a deux ou trois mois sur le Wire.
Ah, c'est possible. Ouais.
Sur ce peuple et sur la manière dont il continue à faire de la musique aujourd'hui et comment c'était. Il y avait un mélange entre modernité et tradition.
Ouais, etc. Oui, il y a un groupe qui mélange avec le dub, qui essaye de tourner actuellement. Ouais. Et ça a l'air d'être vraiment intéressant, un peu dans la même veine que Babazoula, etc. Ouais. Donc ça a vraiment un son très particulier du coup, et ça mélange avec maintenant le son plus moderne, et ça risque d'être très intéressant. Ouais.
Comment s'appelle l'artiste que tu vas nous passer?
C'est des enregistrements qu'on dit ethniques, quoi. Donc c'est vraiment enregistrement, recording. Il n'y a pas de crédit, voilà quoi.
Aucune paternité.
Non.
Très bien.
Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris dans l'émission Ether et Crack avec Cheb Géro pour une émission spéciale Japon. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train d'écouter là, mon cher Cheb?
Alors là, c'était de la musique qu'on appelle Gidayu, c'est la musique de théâtre de marionnettes en fait.
J'allais te poser la question, mais justement, si c'était pas le théâtre traditionnel japonais, parce que ça fait.
Il y a plusieurs vraiment types de théâtre japonais, et même dans les théâtres de marionnettes, il y a encore plusieurs sous-catégories, etc. Alors, il y a aussi des musiques se varient suivant les types de théâtre, mais bon, les variations sont quand même assez assez difficiles quand même d'appréhension, quoi. Mais bon, c'est vrai que y a vraiment un monde pour chacune des danses et chacune des types de théâtre, etc.
Et est-ce que chaque type de théâtre a des thèmes particuliers ou vraiment là je te pose une colle là?
Il y a sans doute des thèmes qui reviennent. Si, c'est des thèmes classiques. Ouais. De toute façon, c'est des thèmes qui existent depuis la création du théâtre de l'époque. Là, c'est quelque chose qui date quand même du 7e siècle ou quelque chose comme ça. Donc, vraiment quelque chose qui existe depuis un peu toujours et qui évolue légèrement avec le temps.
Est-ce que tu sais ce que racontent les chants?
Non, là, pour ce coup-là, celui-ci, pas vraiment, non. Je maîtrise pas assez bien encore le japonais pour.
Ça ne saurait tarder.
Ouais. Mais le japonais du 7e siècle en plus, c'est peut-être.
Ouais.
Oui, voilà. Ouais.
Eh ben, on va écouter la suite.
Ouais, alors on va enchaîner avec un morceau de Shikuzan Takahashi, qui est lui un grand joueur de shamisen. Et du coup, un autre instrument japonais dont Benjamin parlait tout à l'heure, où c'est un luth à trois cordes, qui sont en soie généralement, et qui sont joués du coup avec une sorte de triangle en ivoire. Voilà, où les cordes sont grattées. Donc là, c'est un artiste qui est maître de cet instrument. Et du coup, là, c'est un peu mélangé avec... c'est années 70, donc ça mélange le courant musical un peu de l'époque. Quoi.
D'accord.
Donc c'est agrémenté de basse, batterie, etc. Donc voilà.
Ils ont su s'adapter, quoi.
Voilà.
Ils ont su s'adapter.
Thank you. るかと一生かって待ってたよ。あんまり遅いのでこらやのや飲んでしまったよ。おっこさでおっこさで本当だね。あれさどんな子ちゃ忍んでくるによ。なんでちょうちんこらやのやつけてきたによ。あおっこさでおっこさでほんとだね。泣くな鶏カラスよ。泣けば別れのこらやのや朝になるよ。おっこさでおっこさで本当だね。
Vous êtes toujours à l'écoute des Terre et Crac sur Radio Campus Paris. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Cheb?
Alors là, c'était Chiemi Eri, donc une chanteuse et actrice japonaise, hein, bien sûr.
Et ça date de quand?
C'est 1960. Donc c'est vraiment à l'époque où le mambo, la musique cubaine, faisait un tabac au Japon. Et il y a beaucoup de musique, justement, pop de cette époque-là qui sont inspirées vraiment de ces rythmes-là.
C'est des musiques qui apparaissaient, enfin qui servaient dans des films où elle était chanteuse.
Non, là c'est vraiment des thèmes classiques japonais. Encore une fois, c'est des chansons vraiment qui sont remises
au
bout du jour. Tous les voilà, ouais, complètement. C'est toujours ça pour ce cas, pour ce genre de chanteuses qui font des albums un peu tous les ans, ouais. Et elles chantent toujours un peu les mêmes chansons, mais à chaque fois c'est adapté d'une autre manière.
D'accord.
Donc là c'était vraiment au tout début de sa carrière, vraiment 60, ouais.
Et c'est marrant pour 1960, je trouve que ça. Enfin, j'aurais plus attendu 65, 66.
Bah, c'est vrai que ça sonne très très moderne.
C'est vrai. Ouais, ouais. Je trouve dans le chant, là, mais on s'est
5 ans en avance.
Ouais. Puis ça rappelle les premiers Gainsbourg aussi, ouais, où c'était vraiment un peu arrangé dans ce même esprit.
C'est ça.
Du style Mortel Ennui, tout ça, ouais. C'est très orchestré, quoi.
Ouais,
bien sûr.
Très très beau.
En effet.
Avec quoi on va?
Ah, ouais.
Avec quoi on enchaîne, Cheb?
Alors, avec quoi on va enchaîner avec Takeshi Terushi? Alors, on pourrait le considérer comme peut-être le premier guitar hero japonais. Donc, c'est vraiment le maître de la guitare instrumentale type surf, influencé par les Ventures, etc. C'est le type eleki, on dit en japonais, ce qui veut dire électrique.
D'accord.
Et du coup, lui aussi a une carrière vraiment énorme avec une discographie infinie. J'en découvre toujours tous les jours. Et du coup, pareil, lui aussi a su s'adapter en commençant plus instrumental au début, après en allant vers le funk, etc., avec des BO de films aussi, donc, ce genre de choses. Donc voilà, là c'est un des premiers morceaux qu'il avait avec son groupe Les Blue Jeans, donc de 66, et c'est encore une fois un thème classique japonais, mis par contre là, plutôt au goût garage psyché, quoi.
Tout ce qu'on aime dans Terre et Crac, le garage psyché.
Surtout le surf.
Surtout le surf, ouais. On écoute ça tout de suite. Thank you.
髪が俺の道案内嵐の晩が好きさ殴りかかってくる雨の
de Fipcore 93.9. C'est une belle on doit à Ambroise cette petite blague qui est plutôt bien, je trouve. Fipcore, c'est bien, quoi.
On les explose.
En plus, on parle. Ils parlent pas sur Fip.
Non, on les explose.
Cheb, qu'est-ce qu'on a écouté?
Alors là, c'était The Jax, un des groupes les plus emblématiques de la scène psyché japonaise. Donc là, on parle de vraiment de psychédélique, pas de GS, de groupe sound, vraiment les groupes de l'époque qui ont beaucoup explosé avec l'apparition des Beatles au Japon au début 60. Et bon, là, ça a lancé toute une sorte de, enfin, une vague de groupes, de groupillons à quelques 45 tours et quelques albums. Donc voilà, qui reprenaient surtout les thèmes, enfin, les, comment dire.
Qui étaient plus dans la copie.
Oui, voilà, dans la copie, sans grandes innovations, vraiment, et sans.
Toujours avec leurs petites pattes, quand même, leurs petites pattes japonaises.
Oui, il y a toujours un petit côté, oui, c'est sûr, japonais, mais bon, rien, il n'y a pas d'instrument japonais dans ce genre de groupe, etc. Ouais. Quoi. Donc ça reste quand même assez. S'ils chantent en anglais, on ne peut pas vraiment s'en apercevoir. Pour moi, ce n'est pas vraiment pour ça que j'ai pas choisi de morceaux de ce type-là pour cette émission. Parce que je voulais vraiment axer sur les choses qui soient vraiment typiquement japonaises. Quoi.
Quel honneur. D'accord. Quoi.
Donc voilà, The Jack, c'est un groupe justement qui se voulait différent à l'époque et qui chante donc en japonais et qui est plus sur le, plus avec une ambiance plus dark, un peu plus folk, etc. Donc ça se ressent moins sur les groupes qu'il y avait à l'époque au Japon. Quoi.
Et là, on est toujours dans les années 60.
Ça, c'est 68, ouais. Ils ont sorti plusieurs albums, mais celui-ci reste leur masterpiece de 68. Quoi.
Certes. Très bien. Et la suite ?
Alors, à la suite, il y aura du...
On en était rendu à Maki Asakawa.
Maki Asakawa, voilà, ouais, complètement. Donc, c'est son premier album. C'est un morceau qui est plutôt bluesy, jazzy, un peu plus relax que The Jax, voilà.
Et c'est pareil, les années 60 ?
C'est 70.
70, donc on...
Voilà.
On progresse dans
on
le temps.
On progresse doucement dans le temps, voilà, ouais.
Il s'adapte de plus en plus. Bon, et stop.
一番早い汽車に乗るから夜が明けたら切符を用意してちょうだい 私のために一枚でいいからさ今夜でこの街とはさよならね割といい街だったけどね夜が明けたら 一番早い汽車に乗っていつか噂に聞いたあの街へあの街へ行くのよいい人ができるかもしれないしあの街へ行くのよ一番早い汽車に乗るわみんなは私に言うのそろそろ落ち着きなってねだけども人生は長いじゃないそうあの街はきっといいよ夜が明けたら一番早い汽車に乗るから切符を用意してちょうだい本当本当よ一枚でいいのよいつだって身軽な私じゃないそう乗る夜が明けたら夜が明けたら夜が明けたら夜が明けたら
Radio Campus Paris.
Et Terre et Crac représente
93.9, frère.
93.9. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Cheb?
Alors, c'était le Tokyo Cuban Boys. Alors, c'est vraiment le groupe emblématique, justement, de cette vague cubaine du Japon.
Ce dont tu parlais tout à l'heure, là, c'est ça?
Voilà, ouais. Donc, c'est un des groupes les plus vieux, une des formations de type comme ça, cubaine, les plus vieilles du Japon. Ils sont formés à la fin des années 50. Et c'était dirigé par le maître... j'ai noté son nom parce que je ne m'en rappelle jamais. C'est Tadahaki Misago. Donc voilà. Et il a, pareil, les albums, au fur et à mesure du temps, se sont aussi agrémentés d'ingrédients plus ou moins fuck, là, comme on l'a entendu. Ouais. C'est quand même beaucoup plus, rythmé que les premiers enregistrements qui, eux, par exemple, ont baqué Chiemi Eri qu'on a entendu tout à l'heure.
D'accord.
Donc voilà, c'était plus calme.
C'était aussi des musiciens. Donc du coup, c'est des musiciens professionnels de studio aussi qui tournaient dans plusieurs formations.
Bah non, là c'était vraiment une grande formation. Après, sans doute les musiciens ont dû tourner parce qu'ils étaient au moins une douzaine. Hein, mais mais après, le leader était le même jusqu'au bout. Quoi. Je crois qu'ils sont encore d'ailleurs en activité. Hein, mais je
d'accord.
Ça à vérifier.
Ils doivent plus être très jeunes du coup.
Non, c'est vrai pour le coup. Non.
Et du coup. Toi, tu collectionnes des disques ?
Oui.
Je confirme.
Tu confirmes ?
Oui.
Est-ce que le Japon, c'est quand même pas le niveau ultime du digage ?
Bah, c'est vrai que les Japonais sont quand même réputés pour être très collectionneurs et être très attirés par un peu tout ce qui s'est fait dans le monde, aussi bien que pour le cinéma, que pour des sports très pointus qui se passent à très loin de chez eux. Enfin bon, ils sont vraiment friands un peu de tout. Donc c'est vrai pour la musique aussi. Et donc ils ont accumulé sur le temps énormément de choses. Il y avait des Japonais qui arrivaient en France ou en Europe et qui repartaient avec des conteneurs entiers de musique classique pour le public là-bas, etc. Parce qu'ils sont aussi très friands de musique classique. Donc bon, c'est vrai, quoi qu'on cherche, on va trouver des choses qu'on voit plus ailleurs dans les boutiques, parce qu'en plus là-bas, bon, ils ont pas peur de vol, les disques sont en très bon état, donc on peut voir des disques très rares, très chers ou pas forcément chers, mais bon, qui sont quand même très rares dans les bacs, accessibles à tous. C'est vrai, c'est des disques quand même qu'on touche pas, qu'on voit pas souvent, quoi. Donc ouais, c'est sans doute un des bons paradis pour aller fouiner, pour aller chercher du disque un peu dans tous les genres, quoi. Ouais.
Mais je crois que c'est pas uniquement valable uniquement pour le disque, parce que
au contraire.
Je sais que par exemple pour les motos, il y a des, enfin les Japonais ils ont des modèles de bécanes que genre les, enfin aux États-Unis ou en Europe, il y en a qui tueraient père et mère pour avoir des bécanes comme ça, et enfin les bécanes sont au Japon, tout le monde est là genre putain mais comment hein.
Bah, c'est vrai que il y a des
en bateau.
Non mais ouais, ils ont des sortes de motos très futuristes de style qu'on a pu voir dans Akira, etc. Très rondes, très vraiment choses, des modèles qu'on voit pas en Europe.
Ouais,
c'est
vrai.
Même pour les
ailleurs,
voitures,
quoi.
C'est un peu aussi pareil, quoi.
Ok. Et du coup, on va écouter quoi pour la suite, mon cher Cheb ?
Alors, on va enchaîner avec Osamu Kitajima. Donc, lui, c'est plutôt un des papes de la New Age music. Et il s'est aussi illustré au début, à son arrivée aux États-Unis aussi, parce qu'il est parti aux États-Unis au milieu des années 70. Et c'est là qu'il a fait ses albums qui sont assez mythiques dans le mélange de la culture justement japonaise et occidentale, du coup dans une sorte de musique un peu progressive et psychédélique. Enfin, c'est assez particulier, il a vraiment son monde à lui. Donc,
et c'est électronique du coup ?
Bah, y a des parties électroniques parce qu'il était très branché synthétiseur, etc. Et au fur et à mesure, dans les années 80, c'est devenu vraiment de la musique... ce qu'on appelle plutôt ambiante, new age, vraiment.
À la suite, un peu le genre innovative communication.
Ouais, par exemple. Voilà, des choses qui peuvent être classées aussi dans le easy listening, quoi. Qui sont assez faciles d'accès, mais toujours avec ce mélange de synthé, d'instruments japonais, etc. Donc voilà, on va écouter Osamu Kitajima.
Sur Radio Campus Paris. Thank you.
Ah!
fumer des joints, c'est hyper mal vu au Japon.
Apparemment. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Cheb, avec ce morceau très sexuel et planant là ?
Alors du coup, c'était People, c'est un concept album autour de Kimio Mizutani, qui est un guitariste de studio et qui s'est entouré de plusieurs aussi musiciens de studio pour faire une sorte de concept album sur une messe tibétaine, une messe bouddhiste d'inspiration un peu tibétaine, mais aussi japonaise avec le shōmyō classique, etc.
D'accord.
Et du coup, donc voilà, c'est vrai que le morceau là, il est vraiment très psyché, ça envoie, ça envoie bien. Et puis la petite anecdote sur ce disque, donc c'est que c'est un des disques les plus rares et les plus recherchés du psyché japonais, quoi. Donc c'est les prix atteint des folies de type 5 000 $ quand ça réapparaît, parce qu'il n'y a que 450 copies originalement. Il a été réédité par le label allemand qui réédite à très peu d'exemplaires des albums comme ça très rares, le label Shadok, qui l'ont aussi réédité à 400 ou 450 copies. Donc bon, pareil, la réédition est aussi recherchée que l'original.
Bien sûr,
Donc voilà, il y a aussi une édition qui est un peu moins officielle, qui existe en CD et en vinyle, qu'on peut trouver plus facilement, parce que c'est quand même...
Et qui ne vaut pas 500 euros.
Non, voilà, oui. Qui ne vaut pas 500 euros et qui permet d'accéder quand même à ce chef-d'œuvre de la musique japonaise de cette époque-là, quoi.
Courez l'acheter.
Quelle est la suite ?
Alors la suite, ça va être un des membres de la troupe du Tenjo Sajiki, qui est un théâtre expérimental japonais du début des années 70. Et donc cette troupe a révélé pas mal d'artistes qui ont eu une grande carrière par la suite, comme Kan Mikanimi, qui est un grand... maître de la protest song au Japon.
Un Bob Dylan japonais.
Voilà, il n'y en a pas énormément qui sont vraiment très engagés, etc. Donc lui, il est dans cette veine-là. Donc voilà, aussi, c'est un théâtre qui est très engagé, qui remettait en cause beaucoup de choses. Après, c'est un peu la descendance d'Hiroshima, etc. Donc les jeunes essayent de comprendre tout ça. Donc voilà, c'est assez dark, c'est assez prenant, et généralement c'est un théâtre qui est très visuel aussi, quoi. Donc
d'accord.
Donc voilà, je pense que la musique, ça met bien, ça va bien mettre l'ambiance, enfin nous donner un petit aperçu de ce que.
Et comment il s'appelle ce bonhomme ?
Alors c'est, j'arrive pas vraiment à prononcer, mais c'est.
C'est pas Meiko.
Non, c'est J.A. Siza.
Ah ok, très bien.
Ouais,
je l'ai.
Tu l'as.
On écoute ça tout de suite dans Eteric Rec.
Yeah. 先でさ、うちでお客遊びをするってことにしたんだろ。なあ、やめたら女房が疑うじゃない。な。
じゃあ歌だけでも変わって。
もうちょっとな。
うん。
もうちょっと。
よっ。勤めちゃいくなっちゃ。Do some
say. 東京は日本のキャピタルで、丸の内商会所が並んでる。日比谷に浅草芝上の。マグロにカツオに海苔にそば、カジカジだけんか騒ぎ、選んでこんちきしょうにやっつけろ。さっきは
toujours à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9 dans l'émission Éter et Crac en compagnie de Cheb, Géro, et c'était un morceau extrait de la bande originale de l'Empire des Sens.
Voilà, complètement, de l'ensemble Nipponia, donc un ensemble de musique traditionnelle là, qui a été utilisé pour, par le réalisateur bah, pour faire la BO du film.
Ouais.
Donc, bon,
avec plein de gémissements.
Voilà, ouais, ça rappelle bien
l'esprit du film.
Voilà.
Et c'est un morceau qui existait avant le film, ça n'a pas été composé pour le film.
Je pense que ça a été composé pour le film.
Pour le film.
Ouais, il me semble.
Quelle est la suite du coup ?
Alors on va enchaîner avec un petit Meiko Kaji. Donc Meiko Kaji aussi figure assez importante et un peu plus connue en dehors des frontières parce que c'est la personne, enfin qui c'est comment dire l'actrice qui a un peu inspiré Tarantino pour ses films Kill Bill, notamment film Lady Snowblood, qui est un film justement de la pinky violence, la scène de l'époque japonaise qui mélange un peu érotisme, violence, etc. Donc un peu à la manière des films italiens des années 70.
C'est arrivé, quoi.
Donc c'est dans cet esprit-là. Et puis un des morceaux de cette chanteuse-là, qui elle, c'est une actrice mais aussi elle chante, a été utilisé justement pour la BO de Kill Bill. Donc un morceau qui s'appelait Flower Carnage. Donc voilà. Mais là on va écouter un morceau extrait de Female Prisoner number 701. Donc voilà, c'est un extrait de ce film-là.
On va écouter ça tout de suite sur du campus.
せっかくいい景色楽しんでるのに邪魔しないでほしいわね。
うるせえ。お。このアマふざけやがって。
動くと死ぬよ。惚れた男に命をかけて傷の痛さに泣いたけど人には見せない涙の顔は銀杏渡り 何をくよくよ昨日は見ない広いこの世にただ一人どうせ生まれた体じゃないか明日はどこやらどこで恋するああ銀杏渡り
Et toujours à l'écoute de Radio Campus Paris.
Petit problème technique.
Oh, léger problème technique, mon ami. Je dirais que il faut inverser la face du disque.
Et mettre la bonne vitesse.
Et mettre la bonne vitesse.
Mais c'est pas
mal en 45 aussi. Oui. 33. Ouais.
Bon, c'était bien aussi.
Ça va être mieux comme ça, je pense.
Et du coup, bah, ce qu'on va écouter, c'est la BO de Lone Wolf and Cube, qui est la BO de Baby Cart. Et là, c'est la... La série télé, la déclinaison en série télé de 73, donc c'est le thème principal de la série télé.
Voilà. Très bien, tout de suite sur Radio Campus
Paris. Yukio Hashi.
Yukio Hashi.
Kodakai oka no shiro ato no kuzure kageta azumaya de sono ko wa父を待っていたこの日の朝には帰るはずの父であったそれが三つ目の朝となり四つ目の夜が来て五つ目の朝が雨だった
シトシトピッチャンシトピッチャンシトピッチャン悲しく冷たい雨すだれおさ
涙隠して人を切る帰りゃいいが帰らんときゃこの子も雨ん中骨になるこの子も雨ん中骨になるああ大五郎まだ雨隠して人を切る帰りゃいいが帰らんときゃこの子も風ん中土になるこの子も風ん中土になるああ大五郎
まだ三つ。6つ目の朝、霜が降りた。季節の変わり目を告げる別れ霜が。
パキパキピキンコ、パキピンコ、パキピンコ、雨風凍って別れ霜。霜降る足が
涙隠して人を切る。帰りゃいいが帰らんときゃ、この子も霜ん中凍え死ぬ。この子も霜ん中凍え死ぬ。ああ大五郎まだ
Game Over sur Ether et Crack, toujours avec Shep Giraud. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, dis donc?
Je pense que tout le monde a reconnu le
thème de Mario Bros.
Le thème de Super Mario, voilà, sorti, enfin, composé en 85 par Koji Kondo, un des maîtres de la musique 8 bits et donc un des artisans de l'entreprise Nintendo, de la grande entreprise Nintendo.
D'accord.
Donc, voilà.
Belle entreprise familiale.
Qu'est-ce qu'on écoute après?
Ensuite, on va s'écouter, alors toujours un peu dans les jeux vidéo, un morceau d'une compile des jeux de Sega. Donc, c'est un jeu de shoot'em up à l'ancienne. Donc, les amateurs reconnaîtront bien sûr le style, les autres s'en foutent sans doute.
C'est quoi le jeu?
Donc,
c'est quoi le jeu?
C'est Space Harrier.
Ah, ça me dit quelque chose, je crois que j'y ai joué.
Ah, vous avez 4 ans?
Non, mais avec
je crois
des que c'est émulateurs.
Pas mal de 4 ans. Succès, ce jeu, ouais.
Des jolis émulateurs.
Donc, et là, c'est parti.
Donc voilà.
Faut couper le portable.
We'll be right back.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris dans votre émission Ether et Crack. Et qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Cheb ?
Alors, c'était Hajime Tachibana. Donc, c'est un des membres des Plastics, un des groupes assez connus de la scène New Wave au Japon, parce qu'ils ont leurs disques sont sortis en Europe, en France, aux Pays-Bas, etc. Donc voilà, il me semble que c'était le saxophoniste du groupe. Oui, parce que c'est...
On l'a bien entendu, ouais.
Et du coup, c'est un album qui est produit par Yukihiro Takahashi, qui est le troisième membre de IMO avec du Yellow Magic Orchestra.
Je crois qu'ils sont tous passés ce soir.
Ouais, voilà, ouais. Donc c'était avec Sakamoto et Osono le troisième membre du groupe.
Et donc pour la suite
Donc la suite, on va un peu continuer dans la même idée de musique électronique de la fin 70, début 80, là avec un morceau de Logic System, donc un classique de l'électro de cette époque, bien inspiré par Kraftwerk, on va le remarquer, je pense. Donc voilà, il faut savoir que le fondateur du groupe Logic System était un assistant d'Isao Tomita, donc c'est quand même une sommité dans la musique électronique japonaise.
Qui est cette personne ?
Donc c'est un des pionniers vraiment de la musique électronique, donc vraiment années 50-60. Je crois qu'il avait composé la musique des JO, de je ne sais plus quelle année, mais c'était déjà un morceau électronique et ça avait déjà un peu... changer par rapport au reste où déjà les Japonais on semblait déjà être beaucoup en avance avec les robots, ouais, etc., la musique électronique et tout ça, donc c'était un peu dans cette idée là parce que c'était vraiment très novateur à l'époque de faire ça.
D'accord.
Donc voilà, c'était pour l'histoire.
Logic System sur Radio Campus Paris.
À l'écoute des Terres et Crac, Radio Campus Paris. Qu'est-ce qu'on a écouté, Cheb?
Alors, c'était Haruo Miyosono, donc un des membres encore du Yellow Magic Orchestra, qui est le fameux. Ouais, c'est vraiment.
C'est un peu dur de les éviter. En
c'est, ouais, c'est clair. Dans la musique japonaise de cette époque-là, c'est un peu dur. Et du coup.
Ça date de quand, ça?
Alors, c'est de 89. 80. Et c'était en duo avec Amina, une chanteuse franco-tunisienne. Et du coup, ce qui nous donne un super mélange de world music et d'électronique comme ça, un peu qui aussi un peu pourrait toucher aussi au comment dire R&B qui allait se profiler dans les années 90, je sens.
Je t'avance un peu là.
Ah si, moi je sens.
Tu le ressens toi?
Ah ouais, vraiment.
Je l'ai pas trop ressenti.
Mais... Si.
Bon, t'écoutes pas.
C'est toi le spécialiste.
C'est ma sensibilité personnelle.
C'est toi le spécialiste, c'est pas moi.
On va se quitter sur deux derniers morceaux. Je pense qu'on va se dire
ouais,
au revoir maintenant.
On va se dire au revoir maintenant et puis on va les enchaîner, ouais.
Merci chef d'être venu.
Merci. À
c'était
vous
sympa pour cette petite sélection au Japon.
Une petite tribune pour passer du son japonais, c'est assez rare quand même.
Ça
finalement
fait
à la radio, donc voilà.
Merci d'être venu.
Bah de rien.
Et puis bon,
on se retrouve
semaines.
Dans 15 jours. Qu'est-ce,
voilà.
On sait ce qui se passera ou pas? Pas encore.
Bah la surprise.
Surprise.
On le sait, mais on le dit pas.
Ouais, c'est
la
vrai.
Surprise.
Non, bah oui, j'avoue.
Tellement on est bien organisé.
Grosse pointure.
Promis.
Allez.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
J'aime bien minuit. C'est l'heure où les pendules se remettent à zéro.
Il est minuit sur Radio Campus Paris.